Il y a quelques semaines, nous avons commencé une série où nous avions parlé du don de prophétie. Nous avions découvert un passage dans le livre du prophète Amos où le prophète de la part de Dieu nous indiquait que finalement l'ennemi est non seulement tout autour de nous, mais il est aussi en nous. Et Amos nous avait donné cette bonne nouvelle en nous disant que Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Quel est ce secret que Dieu veut révéler ? C'est que même si l'ennemi est tout autour et dedans, Dieu a un plan, il a une stratégie. Sa stratégie, c'est de prendre la place de l'ennemi, de sorte que lui aussi soit tout autour de nous et soit aussi à l'intérieur de nous. J'aimerais continuer aujourd'hui à regarder avec vous ce thème de don de prophétie dans les Écritures et j'aimerais vous demander une chose en commençant. Quels sont ceux parmi vous qui aimeraient bien avoir un prophète comme voisin? Quels sont ceux qui aimeraient bien qu'un prophète habite la maison juste à côté d'eux? Alors vous allez me dire, ça dépend peut-être de quel prophète vous parlez. On va faire quelques essais. Jérémie, par exemple. Ah, vous allez me dire, mais ce n'est pas ce prophète qui pleure tout le temps, qui crie à Dieu jour et nuit. Moi, je dors la fenêtre ouverte, je ne veux pas avoir quelqu'un qui crie toute la nuit à la maison à côté. Non, Jérémie, non. Bon, on va essayer Jean-Baptiste. Et vous allez me dire, oui, mais Jean-Baptiste, ce n'est pas ce prophète qui se promène en vêtements de poils de chameau et dans sa boîte à lunch, c'est plein de sauterelles. Ça va nous donner quoi comme réputation dans le quartier, ça? Non, 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 pas Jean-Baptiste. Alors, est-ce que vous aimeriez mieux avoir Jonas? Ah, Jonas, c'est ce prophète désobéissant qui se sauve toujours. Ben, au moins, l'avantage, c'est qu'il ne sera pas souvent à la maison. Mais un prophète désobéissant, non, pas celui-là non plus. Bon, je vous propose Déborah. Vous me dites, là, la femme, là, cette femme qui envoie les rois à la guerre, la femme commandant, la femme juge et prophète. Des femmes commandant, on en a déjà assez comme ça. Non, non, pas Déborah. Alors, Noé, le bon père Noé. Oui, mais vous allez me dire, si Noé commence à construire dans le jardin derrière et que tout le monde pendant 120 ans vient se moquer de nous, le jour où il amène ses animaux, moi je ne veux pas un zoo dans mon jardin. Non, Noé. Alors, Moïse, le grand Moïse. Oui, mais Moïse, c'est celui qui fait tomber le feu du ciel sur ceux qui désobéissent. C'est celui qui fait ouvrir la terre pour engloutir ceux qui n'obéissent pas à Dieu. Moïse, c'est une grande pointure pour habiter à côté de chez moi, vous ne trouvez pas? Alors, vous ne voulez pas tellement un prophète? Alors, je vous propose Jésus. Vous aimeriez qu'il habite à côté de chez vous? Ah oui, oui. Bon, mais Jésus, c'est pas seulement un prophète. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et vous allez me dire, j'aimerais seulement qu'il habite chez moi, pas à côté. Mais n'oubliez pas que de son temps, Jésus a aussi terriblement dérangé. Jésus a aussi fait plein de choses qui étaient tellement non conventionnelles qu'on voulait se débarrasser de lui parce qu'il était encombrant, le prophète. On pensait même que c'était Jérémie qui était revenu, ou un de ces prophètes encombrants de l'Ancien Testament. Finalement, personne n'a tellement envie d'avoir un prophète qui habite la maison à côté de chez lui. Parce que les prophètes sont toujours des gens étranges, des gens bizarres, des gens qu'on montre du doigt, des gens qui se font remarquer parce qu'ils sont tellement différents des autres. En fait, quand on y réfléchit, le monde dans lequel on est considère les prophètes, et j'entends les prophètes de Dieu, les vrais prophètes, comme des fous. Regardez ce passage dans le livre du prophète Osée. Dans le livre du prophète Osée, au chapitre 9, il nous est dit comment le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, qui a reçu les oracles de Dieu, considère les prophètes à cause de l'iniquité dans laquelle ce peuple s'est enfoncé. Ce peuple est dans le péché, et à cause de ce péché, il ne voit plus les hommes de Dieu comme il devrait les voir. Livre du prophète Osée, au chapitre 9, il est écrit ceci. Ils arrivent les jours du châtiment, ils arrivent les jours de la rétribution. Israël va l'éprouver. Le prophète est fou. L'homme inspiré a le délire à cause de la grandeur de tes iniquités et de tes rébellions. Le peuple est fou. Alors il considère les prophètes de Dieu comme étant fous et en train de délirer. Plus le peuple est fou, plus le peuple est dans le péché, moins il entend la parole de Dieu. Alors c'est fou de Dieu, c'est fou aux yeux du monde, c'est fou aux yeux du pécheur. Qui sont-ils? Que vivent-ils? J'aimerais avec vous ce matin prendre 7 étapes du ministère des prophètes de Dieu. 7 étapes dans leur vie pour comprendre qui ils sont, ceux que le Seigneur appelle à son service. La première étape dans le ministère des serviteurs de Dieu, des prophètes, de ceux qui ont reçu le don de prophétie, c'est l'appel. Et nous en avons un exemple dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 1er. Jérémie chapitre 1er. C'est le texte que nous avons commencé à lire tout à l'heure, où il est dit dans Jérémie chapitre 1er au verset 4, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Dieu appelle. Dieu appelle ses serviteurs. C'est lui qui les choisit. C'est pas nous qui faisons notre campagne électorale. C'est pas nous qui disons « Votez pour moi, je veux être prophète ». C'est Dieu qui choisit ses serviteurs. Dieu, dans ce passage, rappelle qu'il a un plan pour ses hommes dès le départ. « Avant même que tu sois né, je t'avais mis à part, consacré ». Dieu a un plan, Dieu a une vision pour ses serviteurs. Mais Dieu a un plan et Dieu a aussi une vision pour chacun d'entre nous. Et je me pose aujourd'hui la question, est-ce que mes plans sont en harmonie avec les plans de Dieu pour moi? Les plans que je réalise dans ma vie, est-ce que ce sont mes plans ou est-ce que ce sont les plans que Dieu a pour moi? Est-ce que la vision que j'ai de moi, est-ce que c'est la vision que Dieu a de moi? Est-ce que j'ai réussi par la foi et par la pleine confiance en Dieu à faire coïncider les deux, mes plans et les siens, ma vision et la sienne? Car finalement, nous aussi nous avons été appelés. Sans doute pas à recevoir le don de prophétie comme les prophètes qui nous sont indiqués dans les Écritures. Mais n'avons-nous pas aussi été appelés dans le monde d'aujourd'hui à un rôle prophétique? La deuxième étape dans le ministère des prophètes, c'est de recevoir la parole de Dieu. Alors j'aimerais regarder un passage dans le livre des Nombres où Dieu précise comment il va s'y prendre pour parler à ses prophètes. Dans le livre des Nombres au chapitre 12, Dieu sent le besoin de préciser les choses auprès de son peuple parce qu'il y a de la révolte dans le peuple. Au chapitre 12 du livre des Nombres et au verset 6, il est écrit ceci. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Dieu parle à ses prophètes de 3 manières, par des songes, par des visions, ou en entendant sa voix. C'est ainsi que Dieu s'adresse à ses prophètes. C'est la raison pour laquelle ces hommes et ces femmes de Dieu sont véritablement dans le conseil de Dieu, dans une proximité, dans une intimité avec Dieu. Ils reçoivent sa parole. Et qu'en font-ils? Je vous propose de prendre un autre exemple et de revenir dans le livre du prophète Jérémie. Jérémie est peut-être ce prophète qui, parmi tous les prophètes des Écritures, s'ouvre le plus à nous, ouvre son cœur à ceux qui lisent son livre. Au chapitre 36 de son livre, Jérémie va nous expliquer comment il devient porteur de la parole de Dieu. Jérémie, chapitre 36, au verset 1 et 2, il est écrit ceci. La quatrième année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Prends un livre et tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël et sur Juda et sur toutes les nations depuis le jour où je t'ai parlé, au temps de Josias, jusqu'à ce jour. Voilà l'invitation. Tu as reçu, Jérémie, des visions. Tu as entendu ce que je t'ai dit depuis des années. Maintenant, tu prends un livre et tu écris. Alors, au verset 4, il nous a dit ce que Jérémie va faire. Même chapitre, verset 4, Jérémie appela Baruch, fils de Nerija, et Baruch écrivit dans un livre, sous la dictée de Jérémie, toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Jérémie. Vous remarquez que Baruch va écrire sous la dictée de Jérémie. Chaque mot viendra de Jérémie et Baruch va l'écrire avec application. Mais Dieu n'a pas dicté à Jérémie. Dieu a transmis un message à Jérémie. Ce message, il le lui a donné pendant longtemps et lui dit maintenant, Jérémie, ce message, écris-le avec tes mots. Confie-le au papier tel que tu l'as reçu par l'inspiration. Un peu plus loin, il nous est dit ce qui arrive. Dans ce chapitre, il nous est raconté que Baruch va partir avec ce livre parce que Jérémie est emprisonné. Et Baruch va lire le texte qui lui a été dicté au peuple, dans le temple. Les gens du temple vont amener Baruch au chef pour qu'il fasse la lecture de ce qui est dans son livre. Les chefs vont être inquiets et dire à Baruch, va te cacher. Ce que tu as écrit est terriblement dangereux pour toi et pour Jérémie, va te cacher. Ils prennent le livre et l'emmène auprès du roi, Joachim. Il est en train de se chauffer les pieds dans son salon, devant la cheminée. Et les chefs lui apportent ce livre et lui font la lecture. Et après quelques pages, il sort son couteau, coupe le livre, l'attrape et le jette dans le feu qui est devant lui. Et la vie continue. Joachim vient de brûler la parole de Dieu. Il a pris sa Bible, il l'a jetée dans le feu. Il a rejeté la parole de Dieu. Alors l'histoire continue un peu plus loin. Dans le même chapitre, Jérémie 36, verset 27. Il est écrit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots, après que le roi eut brûlé le livre contenant les paroles que Baruch avait écrites sous la dictée de Jérémie. Prends de nouveau un autre livre. Et tu écriras toutes les paroles qui étaient dans le premier livre qu'a brûlé Joachim, roi de Juda. Jérémie, mon serviteur, recommence, écris à nouveau. Et Jérémie va réécrire, mais un peu différemment. Verset 32, il est écrit, Jérémie prit un autre livre et le donna à Baruch, fils de Nerija, le secrétaire. Baruch écrivit, sous la dictée de Jérémie, toutes les paroles du livre qu'avait brûlé au feu Joachim, roi de Juda. Beaucoup d'autres paroles semblables y furent encore ajoutées. Chaque fois que l'on rejette la parole de Dieu, elle revient à nous plus lourde et plus pesante et plus chargée et plus complète encore qu'elle ne l'était avant. Dans le deuxième livre, Jérémie a rajouté beaucoup d'autres choses semblables qui étaient devenues nécessaires. Et nous avons ces paroles sous nos yeux aujourd'hui, dans le livre qui porte le nom de ce prophète. Amos avait écrit, « Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes, mais on se pose la question, Dieu parle, qui écoute ? Qui écoute ? » Parce que finalement, nous aussi, nous avons reçu la parole de Dieu. Nous aussi, nous l'avons reçue, elle nous a été communiquée, nous aussi nous l'avons entendue. Et qu'est-ce que nous en avons fait ? Est-ce que nous l'avons jetée dans le feu ? Ah non, non, pasteur, je ne jette jamais ma Bible dans le feu, voyons. Mais enfin, est-ce que nous aurions jeté la parole de Dieu dans le feu de la désobéissance, dans le feu du manque de foi, dans le feu tout simplement de l'indifférence? La troisième étape dans le ministère prophétique, c'est la réponse que le prophète va donner à cette parole qu'il a reçue. Et j'aimerais reprendre ce premier chapitre du livre de Jérémie. Nous nous sommes arrêtés juste au moment où Jérémie allait parler. Jérémie chapitre 1, verset 6. Jérémie chapitre 1, verset 6. Il est écrit ceci. Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Seigneur, prends quelqu'un d'autre, je ne sais pas parler. » Et cela nous rappelle la réaction de nombreux prophètes des Écritures qui ont dit, « Seigneur, va chercher quelqu'un d'autre. » Et vous vous souvenez de Moïse, que Dieu va appeler. Ça nous est rapporté dans Exode chapitre 3 et 4, après 40 ans de marche dans le désert avec des moutons. Oh, il y a 40 ans, Moïse pensait être à même d'accomplir le ministère que Dieu avait prévu pour lui. Mais 40 ans après, lorsque Dieu l'appelle, Moïse répond, « Seigneur, va chercher quelqu'un d'autre. » Et Dieu dit, « Enfin, tu vas pouvoir servir. Enfin, tu te rends compte que tu ne vas pas remplir ce ministère par toi-même, parce que ce ministère te dépasse largement. » C'est une tâche divine. Quel est l'homme qui peut le porter? Vous vous souvenez d'Ésaïe? Ésaïe, au chapitre 6 de son livre, écrit « Malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Il faudra qu'Ésaïe ait cette rencontre particulière avec Dieu, qu'il ait cette vision de la gloire de Dieu, pour qu'enfin Ésaïe s'abandonne et dise « Seigneur, envoie-moi. » Jérémie rapporte la lutte qu'il y a eu en lui à cause de l'appel de Dieu. Il en parle dans son livre au chapitre 20. Jérémie chapitre 20, il le dit au verset 7. Jérémie chapitre 20, il est écrit « Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi. Tu m'as vaincu. » Et le mot qui est employé ici pour persuader dans ma version, c'est véritablement le mot séduire. Tu m'as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire. Tu m'as saisi. C'est exactement ce que l'apôtre Paul a vécu aussi. Dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 3, au verset 12, il dit ce passage que vous connaissez bien. « Je cours pour tâcher de le saisir, le prix de la vie éternelle en Jésus-Christ. Puisque moi aussi, dit-il, j'ai été saisi par Jésus-Christ. » L'apôtre Paul avait conscience d'avoir été saisi par Jésus-Christ. Le prophète, celui qui reçoit ce don de prophétie, est véritablement saisi par Dieu, et Dieu l'appelle et le convainc à le servir. Dieu nous a-t-il saisi aussi? Dieu vous a-t-il saisi pour son service, quelle que soit la forme du service auquel il vous a appelé? Mais avez-vous senti que le Seigneur vous a saisi lui aussi? Le Seigneur a-t-il réussi à vous convaincre de vous abandonner à lui et de le servir? La quatrième étape dans le ministère prophétique consiste maintenant pour le prophète qui s'est abandonné à Dieu à donner cette parole, à la transmettre. Encore une fois, dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 2, au verset 1er, il est écrit ceci. Jérémie, chapitre 2, verset 1er. C'est un des nombreux exemples qu'on pourrait prendre dans les Écritures où les prophètes nous rappellent à quel point ils ne font que transmettre ce que Dieu leur a donné. Jérémie, chapitre 2, verset 1, dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Va, crie aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Ainsi parle l'Éternel. » C'est le prophète qui va transmettre cette parole de Dieu. Mais ce n'est pas suffisant parce que Dieu demande parfois au prophète d'être lui-même la parole de Dieu. Regardez cet exemple dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 5. Parmi les nombreux passages que l'on aurait pu prendre à ce sujet-là, j'aimerais regarder avec vous ce qui est dit dans Ézéchiel chapitre 5. Ézéchiel chapitre 5, verset 1er, dit ceci. « Et toi, fils de l'homme, prends un instrument tranchant, un rasoir de barbier, prends-le, passe-le sur ta tête et sur ta barbe. Prends ensuite une balance à peser et partage les cheveux. Brûle-en un tiers dans le feu, au milieu de la ville, lorsque les jours du siège seront accomplis. Prends-en un tiers, frappe-le avec le rasoir tout autour de la ville. Disperse-en un tiers au vent, et je tirerai l'épée derrière eux. » Cette fois-ci, le prophète n'est pas simplement appelé à transmettre « Ainsi parle l'Éternel », il est lui-même la parole de Dieu, il va la vivre, il est porteur de la parole de Dieu. La parole s'est faite chair en lui. C'est une démarche différente. Elle nous rappelle ce que vivaient les sacrificateurs dans le temple. Les sacrificateurs devenaient porteurs du péché parce qu'ils avaient mangé la viande des sacrifices. Cette fois, le prophète a véritablement mangé la parole de Dieu et c'est lui qui est parole de Dieu. Il en est le porteur dans sa chair, dans son corps, dans son être entier. Il est la parole de Dieu. Il la vit. Et on comprend par conséquent comment Ésaïe perçoit ce ministère d'une façon très large et très profonde. Regardez comment il s'exprime dans son livre Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8. Au verset 18, il exprime là la profondeur de ce ministère dans lequel il ne s'agit pas simplement de parler, mais il s'agit d'être. Ésaïe chapitre 8, verset 18 dit ceci. « Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. » Nous sommes des signes. Le prophète porte en lui cette parole. Il est cette parole de Dieu. Il est lui-même parlant par le fait qu'il est là et qu'il existe. Alors je me pose aussi cette question. Cette parole de Dieu, nous l'avons reçue, nous l'avons même transmise. À quel point est-elle devenue partie de nous-mêmes, cette parole? À quel point ce témoignage que nous rendons va au-delà de la parole transmise, mais du témoignage silencieux de notre vie entière? Est-ce que nous nous sentons porteurs de cette parole de Dieu, non seulement dans ce que nous sommes appelés à dire, mais dans ce que nous sommes appelés à être? La cinquième étape dans le ministère du prophète, c'est ce qu'il subit lorsqu'il annonce la parole de Dieu, c'est le rejet. Souvent, la parole prophétique est rejetée. Jésus en avait parlé. Dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 23, Jésus pleure. Jésus pleure sur Jérusalem. Jésus pleure sur son peuple. Regardez quelques versets avec moi dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 23. Au verset 31, par exemple, il est dit « Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. » Verset 34. « C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages, des scribes. Vous tuez et crucifiez les uns, vous battez de verges les autres dans vos synagogues, vous les persécutez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre. » Un peu plus loin, verset 37. « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » La souffrance du prophète qui parle et qui vit la parole de Dieu et qui subit non seulement le rejet de sa parole, mais probablement aussi la condamnation à mort. Combien de prophètes ont payé de leur vie la parole qu'ils ont transmise? Le prix de la parole de Dieu est élevé. La parole de Dieu coûte cher. Finalement, le prophète, dans le rejet de la parole qu'il vit, se place tout à fait dans la ligne de celui qui est la parole et qui a donné sa vie pour la vérité. Dans sa mort, Jésus a fait de la parole une parole victorieuse. Dans sa mort, la parole a été victorieuse. Parce que dans sa mort, la victoire a été acquise sur le mensonge, sur la non-parole de Dieu. Abraham Heschel, dans son livre « Les prophètes », écrit ceci, qui décrit exactement la situation du prophète. Le prophète reçoit les moqueries et les reproches. Il est stigmatisé par ses contemporains comme un fou, et les intellectuels modernes le voient comme un individu anormal. Voilà comment on regarde les vrais prophètes de Dieu. Prophètes de malheur. Cependant, à tous ces prophètes qui ont été porteurs de la parole de Dieu et à tous ceux qui ont suivi leur exemple, étant appelés à être des témoins de Jésus-Christ, Jésus va donner cette béatitude dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5. Vous la connaissez au verset 11, il est dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Nous sommes en bonne compagnie, dans la compagnie des porteurs de la parole de Dieu. La sixième étape dans le ministère des prophètes, c'est inévitablement ce que le prophète vit face à ce rejet. C'est la souffrance du prophète. Il va à ce moment-là mesurer le poids, le prix de la parole de Dieu. Jérémie encore va s'exprimer à ce sujet dans son livre au chapitre 9, au verset 1er. Jérémie chapitre 9, verset 1er, il dit « Oh, si ma tête était pleine d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit la mort de la fille de mon peuple. » Et un peu plus loin, au chapitre 20 de son livre, Jérémie continue à parler là où nous sommes arrêtés tout à l'heure. Nous avions lu le début du verset 7. Jérémie continue. Au milieu du verset 7, Jérémie parle et il dit « Je suis chaque jour un objet de raillerie, tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie, que je dénonce la violence et l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Et je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. » On ressent là la lutte de ce prophète qui souffre et qui mesure le prix de la parole qu'il a transmise. Un peu plus loin, dans le même chapitre, quelques versets plus loin, au verset 14, Jérémie va dire « Maudit le jour où je suis né. » Verset 17, « Que ne m'a-t-on pas fait mourir dans le sein de ma mère? Que ne m'a-t-elle pas servi de tombeau? Que n'est-elle restée éternellement enceinte? Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte? » C'est dire à quel point le prophète est dans la souffrance en voyant que cette parole dont il est porteur n'est pas reçue, elle n'est pas acceptée, elle tombe dans des oreilles fermées. Le prix de la parole. Moïse, le grand Moïse, a vécu cette souffrance de la parole non reçue. Regardez dans le livre des Nombres, au chapitre 11. Moïse crie vers Dieu et rapporte son témoignage. Dans le livre des Nombres, au chapitre 11, et au verset 14 et 15, il est écrit ceci. Moïse s'écrie à Dieu et dit « Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Tue-moi, Seigneur, La mort est préférable encore aux yeux du prophète que l'échec de cette parole qu'il porte et qui semble ne servir à rien et à personne. Le prix de la parole de Dieu est très élevé. Ce prix semble vouloir tuer le prophète qui la porte. Le prix a véritablement tué celui qui est la parole de Dieu. Et devant un prix inestimable à ce point, est-ce que nous allons être indifférents devant le don de prophétie? La dernière étape dans le ministère du don de prophétie, c'est la victoire de la parole. Mais elle ne s'accomplit pas toujours du vivant même du prophète. Parce que nous savons que cette parole dont il est porteur, c'est la parole de Dieu et elle demeure éternellement. Elle continue à faire son œuvre quand bien même le prophète n'est plus. Et nous sommes aujourd'hui, tous les uns et les autres, le résultat de la victoire de la parole prophétique. Cette parole écrite il y a longtemps, mais cette parole qui est éternelle parce qu'elle est parole de Dieu, qui a encore aujourd'hui sa puissance pour amener à Christ les uns et les autres, les hommes, les femmes et les jeunes. La parole devient victorieuse chaque fois qu'elle est entendue, reçue, acceptée, vécue. Le prophète peut-être n'en saura jamais rien. Il est possible que le prophète ait disparu dans le temps, dans le martyr. Mais la parole de Dieu demeure éternellement et elle devient victorieuse chaque fois qu'elle s'incarne. La parole de Dieu devient victorieuse chaque fois qu'elle s'incarne. La victoire d'ailleurs suprême de cette parole de Dieu, c'est lorsqu'elle est venue marcher sur notre terre en Jésus-Christ. Il était la parole et il a donné sa vie pour la victoire de la parole de Dieu, de sorte que cette victoire de la parole soit aussi votre victoire et la mienne, dans la mesure où je la reçois. Dieu voulait que cette parole soit victorieuse chaque fois qu'elle s'incarne dans un homme, dans une femme, dans un jeune. Dans le livre du Deutéronome au chapitre 11, le plan de Dieu est véritablement révélé ici. Deutéronome, chapitre 11, au verset 18. Voici le plan de Dieu. Deutéronome, chapitre 11, verset 18, il est écrit ceci. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains, elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Et vous entendez là nécessairement ces passages que nous connaissons de l'Apocalypse, où il est question du sceau de Dieu, du nom de Dieu qui est écrit sur le front de ceux qui sont sauvés dans Apocalypse chapitre 7 et Apocalypse chapitre 14. Cette loi de Dieu par laquelle Dieu va nous sceller pour l'éternité. C'est-à-dire nous serons signés du nom de Dieu comme signe d'appartenance. Chaque fois qu'elle est victorieuse, la parole de Dieu donne raison au prophète et donne de la valeur à sa souffrance. Chaque fois que cette parole est victorieuse en s'incarnant chez quelqu'un, le prophète est vengé, la parole est glorifiée. Chaque fois que la parole est victorieuse, j'ai reçu la marque de Dieu en moi. Et je ne suis plus simplement un rapporteur de la parole de Dieu, je deviens moi-même la parole de Dieu incarnée, parce que Dieu voudrait que cette parole soit dans mon cœur, dans mon âme, dans mon plus profond, qu'elle soit moi, finalement. Le prophète peut disparaître, la parole de Dieu continue, elle produit encore aujourd'hui ses fruits dans chacun de ceux qui acceptent, comme Jésus, d'être l'incarnation de la parole de Dieu. Cette parole a un coût très élevé. Cette parole, elle coûte cher. Le ministère du don de prophétie ne peut pas me laisser indifférent à cause du prix élevé qui y est attaché. Alors cette parole de Dieu aujourd'hui, elle s'apprête à faire le tour du monde. Elle s'apprête à faire le tour du monde comme témoignage pour toutes les nations et pour nous faire savoir que la parole de Dieu revient bientôt en personne. Mais alors que cette parole de Dieu est en train de rejoindre tous les coins du monde aujourd'hui, les coins les plus éloignés, par les moyens que le Seigneur nous a donnés, alors que cette parole rejoint des gens dans le monde entier, des gens auxquels on n'aurait jamais pensé qu'elle soit accessible, peut-on imaginer que cette parole tout doucement se retire de ceux qui en ont été porteurs pendant si longtemps? Est-il possible que ce don de prophétie soit regardé avec indifférence de la part de ceux qui ont été peut-être les premiers à le faire connaître, alors que la parole de Dieu se répand dans le monde comme dernier signe avant le retour de Jésus? Je ne peux pas imaginer qu'elle se retire de nos cœurs et nous laisse indifférents. Le Seigneur nous adresse cette invitation dans le livre des Chroniques. Il dit « Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Amen.